1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix
plus claire? Good morning, Vietnam!
Tonight we present a very warm little story called Kill with Time.
On a un peu dans le studio, on laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Il suffit que tu fermes ta gueule. À toi, je te laisse ramener.
C'est cool, ça va arriver, les voisins.
Bonjour à tous et à tous, toutes, vous écoutez Les Décadrés, votre émission favorite sur le cinéma et plus largement l'audiovisuel, et ça se passe sur
PFM
99.9, j'attendais plus d'engouement.
PFM, PFM. Donc,
alors, aujourd'hui nous avons Antoine.
Oui, bonjour.
Nous avons Ange.
Oui, c'est moi.
Et bonjour. Nous avons notre invité spécial qui va devenir un habitué, Les Décadrés, Guillaume Méral.
Bonjour tout le monde.
Donc doctorant en filmologie, employé au Cinémovida, journaliste au quotidien du cinéma. Je trouve que plus ça va, mieux.
Ouais, je vais essayer d'en rajouter encore 2-3 pour épaissir un peu la famille.
Voilà.
Tu fais quand même de plus en plus court.
J'arrive à vraiment capter l'essentiel. Donc comment ça va, hein? Vous vous demandez pourquoi Guillaume est là? Bon, on va garder.
Nous on le sait, hein.
Ouais, ça parle aux auditeurs, merci. On va garder un peu le mystère pour la suite, si vous me le permettez. Au programme de l'émission, alors toute l'équipe a eu un total recall justement au Cinémovida d'Arras ce jeudi 9 juin à l'occasion de la première soirée Popcorn Reborn. Bah, qu'est-ce que c'est que Popcorn Reborn? C'est un concept cool. Vous venez au cinéma voir vos films fétiches des années 80-90, Die Hard, Terminator, L'Arme Fatale, etc. Et vous mangez de la pizza et causez à des gens. Le film est lancé, puis à la fin, une discussion tous ensemble, vous parlez de votre expérience, vous faites vos retours. C'est l'occasion non seulement de revivre les films de notre enfance ou de votre enfance, ou de votre vie adulte ou d'embryon pour certains, ou même de vivre une nouvelle expérience cinématographique formidable, il faut le dire, tout en étant dans un cadre convivial et agréable, propice aux échanges et aux rencontres. Je trouve que j'ai bien résumé le truc.
J'aurais pas pu le dire, franchement.
Non, c'est bien, c'est bien.
Et ce fameux jeudi 9, nous avons pu goûter à la pizza délicieuse. En bonne compagnie.
Il convient de le dire, oui.
Mais surtout, nous avons pu redécouvrir Total Recall au cinéma en version numérique remasterisée. Mais avant de nous lancer là-dessus, bah, quelques news quand même.
Bah oui, tout à fait.
Tout à fait.
J'ai oublié de mettre le son.
Netflix a dévoilé sa nouvelle série nommée Stranger Things, créée par Matt et Ross Duffer, à qui l'on doit le film Hidden, et qui ont aussi bossé sur la série à succès Wayward Pines. La synopsis officielle, état de l'Indiana dans les années 80, disparition soudaine d'un jeune garçon qui a poussé sa mère, puis toute une ville, à découvrir une mystérieuse machination impliquant le gouvernement et des forces surnaturelles, bien sûr. Alors qu'est-ce que ça donne dans la bande-annonce? On a l'impression de voir un Super 8 de J.J. Abrams réadapté en série, soit une série rendant hommage aux Goonies, E.T., Explorers de Joe Dante, aux films des années 80, qui nous sont chers, et aussi à Super 8. Bah du coup, hommage de l'hommage, mise en abîme, me direz-vous. La série débarquera cet été, le 15 juillet, sur Netflix. Ensuite, Warner a dévoilé la bande-annonce de Batman v Superman édition Ultimate Cut, soit la version du réalisateur ou version finie du film, avec quand même 30 minutes de plus que dans la version cinéma.
Youpi.
On aura donc des arcs narratifs plus peaufinés, plus précis, ainsi que normalement un nouvel arc. On sait déjà qu'on verra Barbara Gordon, soit Batgirl, incarnée par la somptueuse Jenna Malone, que vous pouvez retrouver dans toute sa magnificence dans The Neon Demon, Nicolas Winding Refn. Enfin, les fans espèrent voir un flashback de la mort de Robin par le Joker.
Donc, moi j'espère aussi. Hein.
Oh, j'en doute. Ultimate Cut sortira en DVD, Blu-ray, VOD le 27 juin 2016. A noter que la version Ultimate Cut devrait être dans tous les boîtiers DVD Blu-ray. Même dans les boîtiers non 3D, sauf si vous prenez que le coffret 3D Batman v Superman et Man of Steel. Enfin, je dis ça, c'est une subtilité.
Oh, c'est ouais, très compliqué.
C'est digne de Warner, c'est pour dire vous achetiez. Enfin, la dernière news du jour, la bande-annonce de la nouvelle série remake, MacGyver, est sortie. Vous voyez ce que c'est, MacGyver? C'était ce gage assez génial incarné par Richard Dean Anderson.
Il manque un jingle là.
Ouais, qui faisait plein de gadgets, plein de. Enfin, avec rien. Il pouvait prendre une allumette et vous faire un château.
Bah, son truc, c'était les bombes, hein, cafetière, fil électrique, bombe, disque, papier, bombe.
Bon, alors du coup, j'ai vu la bande-annonce.
Est-ce qu'il a toujours la coupe mulet?
Oui.
Ah, oh, mince.
Bref, on va s'en cogner. On va dire qu'on l'a déjà oublié. On passe à la suite. Donc, c'est la suite, c'est-à-dire au reste de l'émission qui sera concentrée sur Total Recall, le génial film de Paul Verhoeven de 1990 qui, je le répète, a été projeté au Cinémovie d'Adaras à l'occasion du Popcorn Reborn. Donc avant qu'Ange revienne sur le travail des effets spéciaux du film et qu'Antoine enchaîne sur le remake de Len Wiseman,
rigole pas tout de suite, j'ai pas encore commencé.
Qui était censé être une réadaptation, je tiens à le dire.
Une réadaptation.
On va revenir sur Popcorn Reborn, donc, qui a été mis en place par Giovanni Vasseur, Adrien Joly et notre invité du jour, Guillaume Méral. Donc est-ce que tu nous en parlerais un peu plus?
Pourquoi pas. Je reviens sur la soirée ou le film ou bien les deux à la fois?
Comme tu veux.
Bah, la soirée, c'est exactement ce que tu as dit en fait, dans Popcorn Reborn. Donc, c'est vraiment l'idée d'imaginer une gigantesque soirée pizza dans l'enceinte d'un cinéma. Pour la simple raison que pour nous, il nous semblait que en fait, les films qui ont marqué la culture populaire des années 90, c'était le dernier vestige d'une époque où les films étaient pensés pour être projetés en salle de cinéma par les réalisateurs. En fait, tu vois. C'est ça, c'était le support VHS, on était encore assez. Il était en train d'exploser, mais c'était pas encore le support privilégié par lequel les mecs se disaient on va rentabiliser notre film. Aujourd'hui, les mecs ils tombent pour les iPhones, pour la vision en DVD, Blu-ray, ordinateur, tout ce que tu veux. Donc forcément, ça se répercute. Tu vois ce que je veux dire? En plus, il nous a semblé que c'était une époque qui avait quand même charrié un imaginaire qui était quand même suffisamment puissant et suffisamment fondateur pour que toute une génération, c'est-à-dire la nôtre, etc., s'y retrouve au cours de fétiches communs. Et on s'est dit que pour lancer la soirée, ben, quoi de mieux qu'à Schwarzenegger, tout probablement, parce que ça nous semblait être l'emblème absolu, non seulement de cette période, mais aussi de la manière dont on la voyait et de la manière dont on voulait représenter la soirée. Et on a eu quelques choix qui s'offrent à nous, et là, forcément, le Total Recall de Paul Verhoeven s'est posé assez naturellement. Pour deux raisons, en fait. D'abord, parce que le film, c'est le. Voilà quoi, c'est. Dans une certaine mesure, c'est le choix de Schwarzenegger Movie Ultime. Il dissout du méchant par paquet 12, il tranche des têtes. En plus, il le fait bien violemment, tu vois ce que je veux dire, c'est pas juste un petit.
Il enfonce un pieu dans la tête.
En plus, c'est du Verhoeven, donc tu vois même les chairs qui tapissent le mur derrière, tu vois. Donc, c'est bien méchant, c'est bien vital, etc. Et en plus, t'as la plus-value artistique.
Voilà,
et qui même plus qu'une plus-value de Paul Verhoeven. C'est-à-dire que c'était quand même l'époque où t'avais des Cameron, t'avais des McTiernan, t'avais des Verhoeven, etc., qui s'attaquaient à des énormes budgets et qui arrivaient à jouir d'une liberté artistique qui était certes encadrée par les stars qui les mettaient dessus. Encore que c'est pour Cameron, c'est lui qui faisait tout seul. Mais voilà quoi. Et ce qu'il fait de Total Recall, c'est qu'il arrive à prendre Schwarzenegger, à donner aux gens tout ce que tu peux attendre de possible d'un autre Schwarzenegger, mais forcément c'est Verhoeven, donc il transgresse, il fait autre chose, il prend des pas à côté, et à la fin t'es là à te dire que non seulement t'as que quelque part t'as vu ce que tu voulais voir, mais est-ce que t'as vraiment vu ce que tu voulais voir, quoi, tu vois. Donc tu continues à voir le cerveau, même si ton cerveau reptilien est apaisé comme pas possible, tes sens sont quand même en ébullition, quoi, donc c'est cool.
Ah bah ça c'est sûr. Un petit mot Antoine?
Bah c'était chouette.
Non mais Antoine, c'est intéressant quand tu parles de la matière Verhoeven qui casse des murs, etc. Parce que Antoine, la soirée, parlait justement de la matière, c'était sale, et en même temps, les décors, on les voyait bien construits, fragiles, et sur Mars, même, ils sont assez fragiles, les décors. Mais ce qui est génial, c'est qu'on voit les soldats les exploser. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a quand même pas mal de références parfois à la guerre des étoiles.
Mais le décor,
il y a Stormtroopers qui débarquent le vaisseau des rebelles, dans l'épisode 4, d'un coup face à nous, et on voit souvent ça chez Verhoeven.
Ouais.
Je trouve ça très agréable.
Mais je pense que c'est aussi parce que je me demande aussi c'est parce que si Verhoeven n'a pas les mêmes influences que Lucas, tu sais, qui s'était pas mal inspiré notamment de Kurosawa pour la mise en scène de la guerre des étoiles, etc. Et le western et tout, donc je pense que tu sais, le fait qu'ils aient un socle commun comme ça permet d'avoir ce genre de résurgence, sans compter que oui, à mon avis, Verhoeven a probablement réutilisé plus ou moins consciemment une imagerie de la guerre des étoiles pour jouer avec. C'est ce qu'il a fait pendant toute sa carrière, donc je pense que
Même avec Starship Troopers, il l'avait dit, il voulait des beaux vaisseaux, des grands vaisseaux. Donc nous allons enchaîner avec Ange, qui va nous parler justement de ses effets spéciaux.
Mais justement, un peu de la matière. Donc, parce qu'on n'en parle jamais assez, en fait, ou trop peu, ou pas du tout, dans les films, ça, parfois. Donc on va en parler et c'est tout. La matière, c'est vraiment mon plaisir fondamental que j'ai eu dans le film en voyant Total Recall, car ça nous montre vraiment qu'en cinéma, on peut faire tout et n'importe quoi avec ce qu'on a, avec tout ce qu'on peut avoir sous la main. Et je parle pas que des yeux d'escargot sortant d'un crâne humain défoncé. Non, je parle des possibilités qui s'offrent dans la création des costumes, des décors, des accessoires. Donc alors là, j'entends certains me dire, oui, bah tu sais, faut vivre avec son temps, on peut très bien faire ce qu'on a avec le numérique aussi. Ouais, mais c'est pas tout à fait pareil. Je veux dire, vous avez raison, mais le numérique ne m'offre pas autant de plaisir, enfin pas sur tous les films, je veux dire. Donc Total Recall, comme bon nombre de films, est un film magnifique à voir en termes de décor, tout simplement. Certes, il y reste quelques défauts liés au fond vert dont on peut voir certains contours d'acteurs à certains moments, mais un décor en maquette offre de la matière en fait. Au regard, il paraît vraiment réel en comparaison à un décor numérique, à mon sens. Même si un décor numérique peut être parfaitement réussi, mais quand je parle de matière, je parle surtout de détails à donner à celle-ci en fait. On a l'impression de voir vrai. Il y a une différence de qualité qui se remarque assez facilement. Tout n'est à faire que de sensations au final, hein, mais ça joue aussi sur l'appréciation d'un film. Comme là, on le voit dans les décors de Total Recall, ils sont très minimalistes au final. Hein, les gros, quand je parle de gros décors, je parle des décors extérieurs, surtout sur Mars. Ouais. Au final, ce qu'on voit, c'est un volcan et un grand canyon. Mm-hmm. Mais pourtant, on a l'impression d'y être, quoi, que les personnages y sont vraiment. Tandis que dans un autre décor où c'est tout du numérique, bah, tu remarques facilement que c'est plat. Quoi. Ça reste, t'as pas de profondeur de champ, je dirais. Tandis que là, on a tout. C'est vraiment placé, ça a été créé vraiment sur mesure, je veux dire, à une échelle assez spéciale. Mais il y a une profondeur de champ qui existe, qui fait vivre vraiment les personnages dans ce décor. Que le numérique, des fois, peut perdre si c'est mal fait, c'est ça la difficulté, c'est que du numérique, au final, tu le fais sur ordinateur, t'as un truc qui est foiré, t'as tout ton décor qui est foiré. Là, une maquette, tu peux encore changer les trucs. Mais c'est ça que je trouve magnifique, en fait, dans tous les décors de Total Recall, ou même dans d'autres films. Je pense à, je l'avais cité pendant la soirée, Harry Potter, rien que le château, il est magnifique. Il y a aussi les décors de Star Wars, tout simplement, l'étoile noire, même tous les vaisseaux qui sont utilisés en maquette, ça fait vrai, quoi.
Je pense aussi, vite fait, que c'est aussi la différence que tu as entre les films qui étaient tournés avec les effets spéciaux, même le plateau, ouais, comme Total Recall, et le numérique d'aujourd'hui. Je pense que c'est aussi que le numérique, ça permet à des gros tâcherons d'avoir l'air doué en enchaînant les plans séquences qui seront conçus intégralement par les départements effets spéciaux. Tu vois,
c'est
vraiment
vrai.
Ouais. Là, tu prends le dernier Avengers, etc. Il s'est offert un truc de 7 minutes qui a été intégralement confié aux équipes d'effets spéciaux. Voilà,
quoi. CLM qui l'a réalisé.
Voilà, ouais, clairement. Tandis que à l'époque, mais comme Véronne et tout, tu voyais, les gars, ils devaient faire des points de montage. Quoi. Ils devaient penser leur raccord, ils devaient penser leur mouvement de caméra pour offrir une expérience dynamique et faire vivre le truc. Quoi, tu vois.
C'est comme le dernier Warcraft au final.
C'est exactement ça. En fait, tu pouvais pas vraiment tricher à cette époque-là, tandis qu'aujourd'hui, le numérique, c'est l'alibi artistique des mecs qui savent manier une caméra. Donc,
ouais, si c'est foiré, tu recommences à zéro, puis voilà. Quoi. Tandis que là, au moins, t'es sûr de devoir faire vraiment le bon boulot la première fois, on va dire. Mais
il y avait un travail d'orfèvre. Hein. Il fallait des artistes, aussi des artistes pour les effets spéciaux.
C'est ça.
Comme par exemple sur Blade Runner, ou même 2001, c'est de l'espace, on avait Douglas Trumbull, qui est un des meilleurs créateurs en effets spéciaux. Oui. En sachant qu'en effets spéciaux, on avait quoi, du coup, les maquettes,
les maquillages, parce que t'as Robotine dans Total Recall.
Robotine qui a bossé sur The Thing aussi.
The Thing, qui a beaucoup de trucs.
Hurlement aussi, il me semble. De Joe Dante.
Je pense que c'était lui, ouais. Baker, c'était le loup-garon de Londres, donc.
Et après, on avait ce qu'on appelle les Might Paintings, là, qui c'était des énormes peintures sur verre incroyables, avec un petit espace qui était vide, et qu'on remplissait via la projection. Du vrai bout de film filmé. D'accord. C'est comme ça qu'on intégrait du coup les petites personnes qui bougeaient dans les décors. C'est incroyable.
J'allais en parler juste après.
Ah bah vas-y.
Mais justement, c'est ce que j'allais dire. Je me rappelle plus du nom en fait, seulement de la technique, mais c'était ça. Mais après, c'est sûr, le fait que ça soit de la matière réelle et ou du numérique, ça apporte vraiment une esthétique au film qui crée son style aussi au film. Je prends pour exemple vraiment l'exemple le plus simple que j'avais, c'était la saga Le Seigneur des Anneaux et la saga Le Hobbit. Final, par le même créateur, mais qui fait deux styles totalement différents de films, rien que par les effets spéciaux. Quand on voit les costumes faits pour les orques, les Uruk-hai et tout, on voit clairement que c'est du réel, c'est vraiment fait directement sur
c'est
les
sale,
acteurs,
c'est
alors que, bah, à part Gollum, quoi.
Ouais.
Et dans Le Hobbit, c'est vraiment du numérique, mais ça joue sur l'esthétique du film et le style. Donc après, si c'est plus ou moins bien fait, bah ça passe au niveau du numérique. Hein. C'est pas mauvais non plus, mais ça fait des styles totalement différents. Donc ce que je disais, la matière représente certes un travail énorme côté plastique, comme on l'a dit, mais elle apporte un cachet en fait. Donc Star Wars, Total Recall, comme je l'ai dit. Donc c'est... Donc voilà, je me suis perdu du coup dans tout ce qu'on disait. Donc voilà, je disais Mars, la belle planète rouge, on retrouve les décors de Grand Canyon, le volcan, les incrustations écran sont bien faites, on retrouve vraiment une profondeur de champ qui est magnifique, donc grâce à la technique dont tu viens de parler avec les grandes plaques de verre, et ça fonctionne, donc les bonnes vieilles techniques vieillissent toujours aussi bien en fait au final, ça a beau être un vieux film, il a bien vieilli comme on l'a dit.
C'est l'une des phrases que j'ai dites
et que je reprends.
Mon comparse Benjamin m'a piqué affreusement comme un lâche.
Il a bien vieilli. Non mais ce qui est intéressant ce que tu dis c'est qu'en fait du coup il y a plusieurs techniques qui créent une image. Donc il compose une image. Et en même temps, est-ce qu'on peut parler technique ou de... Parce que c'est... Moi, je pensais par exemple au dernier Mad Max Fury Road, qui utilisait le numérique, mais de la même manière, c'est-à-dire pour construire une image, quoi. C'est-à-dire on va agrandir, on va ajouter une montagne sur le côté, etc.
Ouais, c'est comme ça. En plus, je pense que dernier Mad Max Fury Road, c'est un exemple parfait de l'alliance qui peut être faite entre les techniques numériques et les techniques traditionnelles. C'est-à-dire que, en fait, tous les effets spéciaux quasiment ont été réalisés à même le plateau. Ouais. Par contre, il a utilisé énormément de caméras numériques parce qu'il pouvait les cracher. Ouais. Il pouvait les cracher pour filmer au cœur même du véhicule. Il pouvait les placer comme il voulait. Il n'avait pas la contrainte de la pellicule. Ouais. Donc en fait, quelque part, Paranormal Fury Road, c'est un film à effets spéciaux traditionnels qui n'aurait jamais été possible, paradoxalement, sans les caméras numériques. Tu vois.
Ouais, ça c'est fou.
Voilà, et puis je pense que là, oui, il n'y a pas vraiment du mauvais. Pour moi, à mon avis, il n'y a pas de bon domaine ou de mauvais domaine. Il y a surtout ce qu'on en fait. Et la nuance des deux n'est pas c'est pas une chimère, quoi. C'est quelque chose de tout à fait possible.
Terminator 2, c'est quand même une des meilleures alliances avec le T-1000 qui est en numérique.
Ouais.
Et même parfois qui utilisait deux jumeaux pour faire le T-1000. Oui. C'est vrai. Ce qui est assez rigolo. Donc c'était vraiment le. Je trouvais que c'était extraordinaire en termes
de. Avec Robert Patrick.
Depuis la force de la T2, c'est que l'effet numérique, il l'utilisait spécialement pour construire le T-1000. Ouais. Parce que quand tu voyais le T-1000 résonner l'effet numérique, tu voyais un méchant que tu n'avais jamais vu auparavant, qui faisait des trucs que tu n'avais jamais vu auparavant, et ça accentue encore plus son aura cauchemardesque, quoi, tu vois.
Complètement.
Je me suis perdu dans vos belles paroles. Mais c'est ça, c'est du. C'est pas des mauvaises techniques le numérique, au contraire. C'est juste que c'est une esthétique différente et c'est toujours aussi agréable en fait à voir au final. Moi je trouve, j'adorerais revoir des films. Ça serait énorme qu'il y ait un film de nos jours qui soit fait au corps avec des maquettes. Parce que ça se voit plus tellement. Enfin, j'en ai pas revu depuis.
Star Wars 7 on a fait, je crois.
Il y a des maquettes.
Il reste énormément de maquettes. Star Wars 5 par contre.
Non mais vraiment.
Star Wars 3 c'était blindé, pardon.
Un gros travail sur les maquettes.
Souvent, justement, on utilise la maquette et l'incrustation numérique justement. Pour par exemple incarcérer
oui, tout à fait.
Insérer un vaisseau spatial au-dessus d'une colonie, par exemple.
Mais en fait, je pense que les choses sont moins tranchées que ce qu'on peut croire. Il y a encore pas mal de films qui utilisent des effets spéciaux traditionnels, mais on a tendance à faire la confusion à chaque fois qu'on voit un effet numérique voyant, de se dire ça y est, c'est ce que les Arocs avaient fait à l'époque du Seigneur des Anneaux. Ils avaient dit que c'était une croûte numérique alors que c'était le film qui comportait le plus de décors naturels.
Ce que j'avais dit à Ange quand les gens ont vu La Menace Fantôme ou même L'Attaque des Clones, alors que c'était blindé de maquettes. Mais que les choses se font très bien, quoi. Par exemple, la course de pod de La Menace Fantôme, les spectateurs c'était des bouts de coton-tige, et forcément, c'était super réussi, quoi. Les gens voyaient sauf cours du numérique,
mais donc la matière. Donc on vient d'en parler dans les décors, est aussi présente dans les costumes, les maquillages, qui sont d'ailleurs très réussis et qui correspondent parfaitement au visage des acteurs. Donc là, je parle bien entendu des mutants, donc comme quoi on n'a pas besoin d'avoir plein de capteurs en fait sur la tronche pour avoir un aspect réussi. Donc on en parlait aussi avec les orques dans Le Seigneur des Anneaux comme exemple, mais ou même la période d'intoxication par l'atmosphère de Mars qui transforme les humains en escargots. La transition entre réel et monstre est superbe. Donc tout d'abord grâce au jeu des acteurs qui est bien géré, en même temps c'est pas très difficile de faire que crier, mais aussi le montage qui nous permet de voir petit à petit l'installation du costume en quelque sorte. Le montage est tellement bien fait qu'on voit pas vraiment de défaut à ce niveau-là où ça met trois plombes à s'installer, quoi. Donc il y a aussi le montage qui fait partie aussi de la matière, quoi, dans ce film, qui est vachement important. Donc il y a pas de faux pas sur ce côté-là. Enfin, j'en ai pas vu pour moi en tout cas. Donc enfin bref, en revoyant un film tel que Total Recall sur grand écran, ça m'a donné envie d'en revoir plus des films faits à la main, un film vraiment à la main. Et je vous conseille aussi d'en voir. Certes, ça paraît vieux, mais ça fait toujours du bien d'en voir aux yeux. Ça fait moins mal que du numérique parfois.
C'est joliment dit.
Bah oui, quand même.
C'est tout à fait vrai en plus.
Mais je suis pas en guerre contre le numérique. Hein.
Mais on devrait proposer pas d'autres films comme ça dans Popcorn Reborn à l'avenir. Donc,
voilà. Ouais, ça serait
cool. Avec plaisir. Ange, est-ce que tu as une musique?
Tout à fait.
Tu galères?
Qui est proposé par Antoine. Bah, je pensais que t'allais l'annoncer. En fait, c'est pour ça que je t'attendais. Ouais.
Lance-la avec plaisir.
Ça marche. Ouais. On y va, on l'annoncera après.
Oui. Donc c'était, bonjour, c'était la musique de du nouveau Total Recall sur PFM 99.9, Total Recall de Len Wiseman, présenté par Antoine.
Oui, alors Total Recall ou Mémoire Programmée, donc le remake du film Total Recall de Paul Verhoeven, sorti en 90 et dont nous ont parlé nos chers camarades. Et sachant que tous deux sont l'adaptation de la nouvelle de Philippe K. Dick, Souvenir à vendre. Alors nous retrouvons la réalisation de ce film, Len Wiseman, à qui l'on doit par exemple la réalisation de deux premiers volets d'Underworld et Die Hard 4, Une journée en enfer. Mais voyez-vous, chers amis et chers auditeurs, je suis un petit peu embêté, car en fait je n'ai pas du tout aimé ce film. Et pourtant, c'est bien moi qui ai insisté auprès de mes comparses pour vous en parler. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Bah j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une question qui ne m'a pas lâché durant toute la durée du film, une question qui me semblait légitime de poser, après avoir pu redécouvrir le Total Recall de Verhoeven sur grand écran. Et cette question toute simple, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce film? Et après avoir visionné deux fois la version longue du film, et ben, j'ai toujours pas trouvé de réponse à cette question. Mais enfin, avant d'aller plus loin, parlons de l'histoire de ce remake. Nous sommes à la fin du XXIe siècle. Par le passé, de nombreux conflits chimiques ont éclaté sur Terre, ce qui eut pour effet de dévaster une partie considérable de la population et des territoires terrestres, au point qu'il ne reste plus que deux territoires sains. Nous avons donc les îles anglaises et une partie des côtes européennes qui forment ensemble l'Union fédérale britannique. Et de l'autre, l'Australie, aussi baptisée la colonie, une terre de pauvreté. Voilà, donc ça c'est pour le contexte géopolitique du film. Et qu'en est-il de l'histoire? Nous suivons alors Douglas Quaid, interprété par Colin Farrell, modeste ouvrier dans une entreprise de construction de robots sécurisés qui semble quelque peu lassé par le train-train quotidien de sa vie. Incompris par sa femme, interprétée par Kate Beckinsale, il se tourne vers les services de la société Recall qui propose à ses clients l'implantation de souvenirs virtuels et rapidement le choix de Douglas se tourne sur l'implantation d'un souvenir en tant qu'agent secret. Très vite l'implantation semble mal tournée et Douglas ne sait plus s'il est dans un rêve ou s'il est dans la réalité. Alors, le film en lui-même n'est pas très intéressant à part son contexte géopolitique, puisque en fait celui-ci ne propose rien de bien innovant face à la version de Verhoeven. Et même si les moyens techniques et quelques scènes d'action bien couillues peuvent nous étonner, on se retrouve vite lassé par le scénario qui, étrangement, semble bien moins tenu que la version de Verhoeven. Ce qui est, enfin je me permets de le dire, ce qui est quand même tout de même assez con, puisque le film tente de garder le même schéma narratif que son prédécesseur. Le film se concentre essentiellement alors sur les effets spéciaux à tel point qu'on en arrive à zapper ce qui se passe autour des protagonistes. Et quand je pose la question pourquoi avoir fait ce film, il ne s'agit pas d'un simple jugement de valeur, mais d'une véritable question. Pourquoi vouloir prendre le schéma narratif d'un film pour en final en occulter certaines parties du scénario qui ont permis son succès? Pourquoi glisser autant de clins d'œil et de références au film d'origine si c'est pour balayer d'un revers de la main toute l'identité du film de Verhoeven? Total Recall pour moi en fait c'est simple, ce remake ce fut une déception. Et malgré la présence d'un Colin Farrell que je trouve toujours aussi convaincant dans n'importe quel de ses rôles, le film s'engouffre dans de la superficialité et on perd la saveur de l'histoire du personnage de Quaid, ce qui donne souvent l'impression de regarder un mauvais nanar à gros budget. Et quand... Et ça c'est vraiment pour conclure, mais il y a d'autres exemples, le film passe son temps à tourner dans le cliché, à prendre des références sur la version de Verhoeven, mais sans jamais proposer quelque chose d'autre. Il y a même, c'est même très très fort parce que au début du film, quand Colin Farrell parle de la première fois de Recall à son collègue justement, je connais l'acteur mais je ne sais plus le nom, le collègue fait référence justement à un mec qui voulait devenir, qui a pété un plomb, qui s'est fait lobotomiser et qui voulait devenir l'empereur de Mars. Et c'est une référence directe au Douglas Quaid du premier Total Recall. Et par exemple, il y a aussi une scène. Est-ce que vous vous souvenez de la scène de l'aéroport? Oui,
absolument.
Avec Douglas Quaid déguisé en femme. Alors là, on arrive, voilà, Schwarzenegger déguisé en femme. Là, on arrive dans un aéroport. Enfin, c'est pas un aéroport. Et on voit, en gros, la même femme, mais en fait, ce n'est pas Douglas Quaid. En fait, Douglas Quaid, il est juste derrière.
Ouais, je m'en rappelle, c'est un petit clin d'œil. Ouais.
C'est un petit clin d'œil, et en fait, j'ai l'impression que c'est ça. Le film fait des clins d'œil tout en essayant de déjouer ce que l'ancienne version a pu proposer. Mais lui ne propose rien de plus, en fait. L'action se passe sur Terre. Bon, certes, le contexte est différent. Les gens, pour se rendre de l'Australie jusqu'au Royaume-Uni, sont obligés d'utiliser un espèce de tunnel qui passe par le noyau terrestre. Mis à part ça, il n'y a pas énormément de plus en ce film. Ça a été très difficile de le regarder et ça a été très difficile d'en parler.
En fait, il n'y a aucune ambiguïté sur réel ou la réalité, à part à la fin, mais la fin est catastrophique.
Et en fait, d'ailleurs, si vous avez vu, si vous voyez la version longue, je me permets, je vais faire du spoil. Attention, alerte spoil. En fait, à la fin, on comprend qu'il est dans un rêve parce que le tatouage que lui administre, enfin que lui font les employés de Ricoh au moment où il rentre dans la machine, n'est plus à son bras. En fait.
Ah oui, d'accord. Okay.
C'est, et en fait, là, on a la confirmation que qu'il est dans un rêve. Alors que chez Verhoeven,
il y a une ambiguïté.
Il y a une ambiguïté. Même... On voit la lumière, on se dit peut-être qu'il est lobotomisé, il va rester dans ce rêve. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que il est toujours pleinement conscient? Est-ce qu'il va se réveiller complètement amorphe? On ne sait pas.
Même si Verhoeven joue sur l'ambiguïté. C'est aussi, ça. Dans ses propres discours.
C'est ça. Et même là, il n'y a pas de. La tension entre le rêve et la réalité n'est pas soutenue en fait. Mais par contre, une chose que j'ai trouvé intéressante dans le rêve, c'est je trouve que le seul aspect qui a été plutôt bien utilisé et qui se colle à peu près avec le film de Verhoeven, c'est l'aspect du rêve justement, puisque le personnage de Colin Farrell se base souvent sur ses rêves. Pour essayer de comprendre si, pour essayer de se situer si dans la réalité ou pas. Et en même temps, c'est ce qui va le fausser dans son interprétation du monde, de la réalité qu'il perçoit. Mais en même temps, c'est ce qui va aussi nous permettre, nous, en tant que lecteurs, d'essayer de nous raccrocher à l'histoire du film. Mais le problème, c'est que c'est que des petits moments comme ça et c'est pas suffisant à maintenir l'ensemble du scénario en fait.
La scène d'action principale, quand il est en bagnole et qu'à un moment donné il saute, il me semble. Mm-hmm. Je me suis dit, ah non, mais c'est bon, l'attaque des clones, on va nous la ressortir.
Ouais, puis c'est. En fait, c'est comme tu dis, c'est le problème de la plupart des remakes hollywoodiens actuels. C'est-à-dire qu'en soi, moi, je pense pas qu'il y ait quelque chose de sacré. À mon avis, tout est propice
aux
remakes.
Bien sûr.
Le problème, c'est qu'à chaque fois, les mecs, ils te disent qu'ils veulent faire table rase de ce qui a été fait pour faire quelque chose de moderne, de nouveau. Mais les Gusses, ils ont le culot à chaque fois d'utiliser, comme tu dis, le schéma narratif et grosso modo les grandes lignes du précédent pour renvoyer au public quelque chose qu'il connaît. Et pour ce qui... Mais tout en applaudissant à mort ses particularités, ses spécificités, quoi. Donc ouais, c'est du bidon de lessive.
C'est du bidon de lessive
en badé, surtout du tout.
C'est exactement ça.
Qui se base sur la mémoire programmée du public, sur le premier quelque part. Mmh.
Ouais. Début en mode Blade Runner, moi j'étais...
Ah oui, non, mais c'est. Après, en termes de décor,
c'est vu, revu,
et malheureusement, les seuls passages que je trouve vraiment intéressants en termes de décor, c'est dans la colonie, justement, où il y a très très peu d'effets numériques, et c'est essentiellement de la construction, et ça rend plutôt bien avec un fond, avec du fond vert, justement, pour tout ce qui est les autres paysages, et ça rend plutôt bien. C'est quand j'ai vu le film, je me suis dit à ce moment-là, ça allait pas mal. Par contre, oui, effectivement, pour tout le reste, quand on arrive au royaume, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, ça c'est tout pour Total Recall Mémoire Programmée.
Merci Antoine. Pour terminer l'émission, je vous propose d'écouter le thème principal de Total Recall, donc pour le plaisir des oreilles, juste avant, petite anecdote. Jerry Goldsmith, donc le compositeur de la bande-son, s'est inspiré d'un autre film avec Schwarzy pour faire le thème
Conan
le Barbare.
Ouais.
Donc, composé par Basil Poledouris, compositeur sur le Robocop de Verhoeven. Donc, c'est plein de croisements. Ouais. Voilà, bonne journée à tous et à toutes. Et on se dit à la semaine prochaine.
C'était les Décadrés sur 99.9.
Bien joué.
Ouais.